Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Les auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité à cette émission. Quelles dispositions prendre pour prévenir les inondations à l'approche de la saison pluvieuse? On en parle dans cette émission aujourd'hui avec Monsieur Salomon Saloumouzaïra, expert en génie hydrologique. Monsieur Salomon Saloumou, bonjour.
Bonjour, Julie.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez déjà le 081-82-82-827. On aura également dans cette émission M. Joël Kiana, président de la Corporation des urbanistes congolais. Comment promouvoir l'allaitement maternel en République démocratique du Congo? Ça sera notre deuxième sujet du jour. Nous allons recevoir à partir de 11h05 Madame Marie-Ludvine Mbala, spécialiste en nutrition à l'UNICEF, et Monsieur Damien Sabouni, chef de division de la communication au programme national des nutritions Pronanut en sigle. Toute l'équipe de production est en place. Naomi Moutokie assure la réalisation et la coordination de cette émission. Debs Vita à la mise en onde. Patrick Kiasongwa assure la diffusion live sur Facebook, YouTube et X des Radio Okapi. Merci d'être nombreux à l'écoute de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Eh oui, bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service, l'émission qui s'intéresse à vos problèmes, à vos tracas, vos soucis de la vie de tous les jours, et nous invitons les experts qui peuvent vous aider avec les conseils, les informations, voilà, les astuces pour bien mener votre vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du retour de la saison pluvieuse. Vous savez, lors de la dernière saison des pluies, on avait enregistré de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines à travers la ville de Kinshasa. Par exemple, près de 29 décès ont été enregistrés à la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 13 au 14 juin dernier, d'après le ministère, selon les informations données par le ministère de l'Intérieur. Alors, le retour prochain de la saison des pluies fait craindre d'autres dégâts tels que les inondations, les glissements des terrains et les morts d'hommes si on ne prend pas déjà les dispositions. Alors, quelles sont ces dispositions pratiques prises pour ou qui doivent être prises que l'on doit prendre pour éviter d'enregistrer d'autres dégâts à l'approche de la saison pluvieuse, parce qu'il faut toujours s'attendre à des pluies diluviennes qui peuvent aussi causer des dégâts, mais l'important c'est la prévention. Comment on fait pour prévenir tout cela et gérer si au cas où cela arrivait? Bien, on en parle avec nos invités. Nous avons dans ces studios Monsieur Salomon Saloumou Zaïra, il est expert en génie hydrologique. Monsieur Saloumou Salomon, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission Okapi Service. Alors, la saison des pluies approche. Quelles sont les dispositions à prendre pour n'est-ce pas, éviter les inondations et d'autres problèmes.
Merci, Jody, pour la parole. Merci aussi pour l'invitation. C'est la première fois que je passe sur les antennes de Radio Okapi.
Ok.
Alors, je vais faire un effort pour essayer de répondre à la question. Et ma réponse aura deux volets. Dans le premier volet, je vais donner une approche structurée classique de prévention des inondations et tout risque. Et dans le deuxième volet de ma réponse, et là je serai beaucoup plus pratique, ce que nous appelons chez nous en ingénierie pratico-pratique, là je vais vraiment cerner les cas de notre pays. Dans notre pays, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour essayer de gérer ce type de catastrophe?
Oui.
Alors, vous parlez de la voirie, vous parlez de pluie. Donc les deux mots-clés que je retiens, c'est le pluie et la voirie urbaine. La voirie urbaine est l'ensemble des voies publiques et des infrastructures qui permettent la circulation dans une ville. Ça, c'est la définition simple que je peux donner. Maintenant, cette voirie-là fait face à l'approche de la saison pluvieuse prochaine, fait face à des eaux qui vont venir. Et maintenant, votre crainte, notre crainte à tous, est que ces eaux-là, qu'est-ce que ça va amener comme danger dans la voirie?
Oui.
Alors, la bonne question, c'est... Il faut prendre des dispositions. Et qui doit prendre ces dispositions? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'hôtel de ville? Est-ce que c'est notre voirie, notre office de voirie et drainage, parce que nous avons la chance d'en avoir?
Oui.
Est-ce que c'est nous, les experts en génie hydraulique et hydrologique?
Ou c'est tout le monde?
Alors voilà la question, c'est pas moi qui pose des questions.
Oui.
Alors là, je me pose une question que je vais moi-même répondre.
D'accord.
C'est tout le monde. Donc, ce sont les 100 millions de Congolais qui doivent prendre les dispositions contre les inondations. Nous avons une très mauvaise manière de faire les choses dans notre pays. Je vais revenir là plus en détail dans le deuxième volet de ma réponse. Mais dans le premier volet, je vais y aller très rapidement. Dans le premier volet, je donne d'abord l'approche classique et structurée pour prévenir les inondations. Alors, là, je vais résumer ça en 6 petits points que je vais brosser très rapidement.
Oui.
Alors, le premier point, ce sont les mesures structurelles. Dans les mesures structurelles, nous avons le drainage urbain amélioré, nous avons le curage et entretien régulier des caniveaux, la construction de nouveaux collecteurs dans les zones denses, si cela est possible, et nous avons la construction des bassins de rétention et des zones tampons. Créer des bassins artificiels pour retenir l'eau des pluies avant qu'elle inonde la population. Nous avons la protection des ravins. Vous avez parlé des glissements de terrain tout de suite. Stabilisation des versants avec des gabions, des plantations, aménagements anti-érosifs. Nous avons l'assainissement intégré qui consiste à séparer les réseaux d'eau usée et pluviale. Alors, ça c'est... Le premier point, ça sont les mesures structurelles. Nous avons les mesures non structurelles. Parmi les mesures non structurelles, nous avons la planification urbaine, c'est-à-dire interdire ou contrôler les constructions dans des zones inondables, l'île majeure de la rivière Ndjili par exemple, les zones basses de Massina, etc. Aménager les couloirs écologiques pour laisser l'eau circuler. Nous avons la gestion des déchets solides, qui est un casse-tête aussi dans nos pays. La mise en place d'un système efficace de collecte de déchets pour éviter le colmatage dans les caniveaux. Campagne de sensibilisation, pas de déchets dans les drains. Cartographie des zones inondables, identifier les quantités les plus vulnérables. Et le troisième point, c'est le système d'alerte et gestion des crises. Là, nous avons les alertes précoces. Utiliser la météo, les données de météo, couplées à des modèles hydrologiques pour alerter la population. Nous avons la diffusion de l'information par les radios, les SMS, les réseaux sociaux actuellement.
Oui.
Nous avons le plan de contingence, c'est-à-dire organiser les comités locaux de gestion des risques dans chaque commune. Nous avons à prévoir aussi les abris temporaires en cas d'inondation majeure. Et le quatrième point, c'est le renforcement institutionnel et communautaire. Là, nous avons la coordination interinstitutionnelle, mettre autour d'une même table tous les acteurs, c'est-à-dire les ministères de TPR, l'hôtel de ville, l'INBTP, bien sûr, qui est l'ingénieur conseil à la matière dans notre pays,
oui.
L'OVD, la régie des eaux, l'urbanisme. Nous avons la participation communautaire, c'est-à-dire les programmes Cash for Work, ça je ne sais pas comment ça se dit en français. Cash, donc, vous voyez le maman que je vois en train de balayer la route là.
Oui, oui.
Bon, ça c'est ça le programme de Cash for Work. On peut faire la même chose.
Donc on vous paye le cash
pour un travail bien déterminé.
Oui.
Et éducation de ménage, aussi la gestion des eaux pluviales, le citerne, le puits perdu, etc. Et le cinquième point, c'est l'innovation et la recherche.
Mm.
Nous sommes parmi les pays qui ne croient pas à la recherche, mais on ne peut pas se développer sans passer par la recherche. Il est impossible. Donc, il faut utiliser la recherche.
La recherche, oui.
Les universités, utilisation de méthodes. Bon, là, je ne vais pas citer les méthodes beaucoup plus complexes ici, sur le plateau de la télévision. Et le dernier point, c'est le court terme contre le long terme. Le court terme, là, ça concerne directement votre question. Dans le court terme, c'est-à-dire d'ici la pluie qui va tomber d'ici 2 semaines, 3 semaines au plus tard.
Oui.
Nous avons le curage massif des drains. Je vois déjà ça.
À travers la ville de Kinshasa.
À travers la ville de Kinshasa, je vois déjà un effort dans les. On est en train de curer les.
Mais pourquoi on cure les caniveaux, les drains, mais on laisse des tas de sable sur la route et est-ce que ça va pas retourner?
Oui, justement, ça c'est. Non, là.
Dans les caniveaux.
Non, du côté où je suis, on cure et on enlève le sable à côté. Mais le grand problème, c'est que on cure aujourd'hui et le lendemain, la maman qui balaye la route là, il rejette
les sables
dans les drains et puis le cercle vicieux continue.
Oui.
Et préparer le plan d'urgence, sensibiliser les ménages, comme je l'ai dit, interdire les mamans de jeter encore leur sable dans les caniveaux qu'on a curé. Et à moyen et à long terme, nous avons la réhabilitation complète du réseau de drainage, la mise en place d'un réseau directeur. Et en fin de compte, en conclusion pour ce premier point-là, pour le premier volet de ma réponse, la clé pour Kinshasa est un mélange de solutions rapides et de réformes structurelles profondes, infrastructures, urbanisme, pour arriver à bout.
D'accord. Un instant, on va accueillir Monsieur Joël Kiana, président de la Corporation des urbanistes congolais. Monsieur Joël, bonjour. Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. On va tenter de le joindre dans quelques instants. Par exemple, à Kinshasa, vous avez dit que le curage des caniveaux a déjà commencé.
On le voit
à travers la ville.
Oui.
Voilà, on cure les caniveaux et certaines rivières.
Oui.
Il y a aussi un autre élément, c'est la destruction ou disons des constructions anarchiques. On a vu à travers la ville ceux qui avaient construit sur les collecteurs. Les maisons ont été rasées et je pense que l'opération est en train de continuer pour libérer ces espaces-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une solution efficace pour prévenir les inondations?
Alors, quand on parle de construction anarchique, moi j'ai toujours mis ça entre guillemets, construction anarchique entre guillemets, parce qu'il faut d'abord définir c'est quoi une construction anarchique. Mais pour revenir à la question, est-ce que ça va résoudre les inondations? Personne ne le sait. Pourquoi personne ne le sait? Tout simplement parce que j'ai donné tout un temps si vous permettez que je donne d'abord le deuxième volet de ma réponse et puis je reviens sur la question.
Allez-y.
D'accord. Alors, le deuxième volet de ma réponse est que tout ce que j'ai donné là comme point dans l'approche structurelle ne peut être fait que par l'homme. Et cet homme-là, c'est l'homme congolais. Mais quel est le problème de l'homme congolais? L'homme congolais a un problème d'attitude et de comportement. L'attitude et le comportement, l'état d'esprit de l'homme congolais, action observable de cet état d'esprit, c'est ça les attitudes. Alors, de manière générale, l'homme congolais pense que la solution viendra de l'autre. Donc ce n'est jamais lui qui peut résoudre le problème.
C'est l'autre.
C'est l'autre, donc c'est le chef de l'état, c'est le gouvernement, donc c'est l'autre, en tout cas tout sauf lui. Et tant que cette attitude va continuer, le pays tournera en rond. On ne résolvera aucun problème du tout. Alors, pour résoudre le problème de manière efficace dans notre pays, quel que soit, il n'y a pas que les inondations dans notre pays.
C'est là, on entend souvent, papa Mokondi, t'allais la voilà, mission du voilà. Cambo, t'allais là.
C'est impensable ce type d'attitude. C'est ça qui fait notre sous-développement.
Oui.
Alors,
on fait partie de la solution.
Exactement.
On doit s'impliquer.
On doit s'impliquer tout le monde là où il est, dans sa parcelle de responsabilité. Il doit faire que les choses marchent là où il est d'abord.
Avant de ne pas jeter la saleté dans les caniveaux.
Pas du tout. Par exemple, il faut que le chef de l'État vienne enlever le caniveau, les saletés que vous jetez, vous, dans le caniveau.
Oui.
Alors, quelle action à mener pour l'homme congolais? D'abord, l'homme congolais doit décider de commencer à travailler pour son pays. Très peu de Congolais travaillent pour leur pays. Très, très, très peu. Chaque Congolais travaille pour lui-même, pas pour le pays.
Pour son propre ventre.
Exactement. Et pour sa poche. Très peu travaillent pour le pays. D'abord, prendre une décision de manière collective. Les 100 millions décident de prendre une décision pour désormais travailler pour leur pays. Mmh. Ça, c'est un. Deux, être discipliné dans le travail. Trois, être rigoureux dans ce qu'on fait. Et enfin, surtout, apprendre à devenir sérieux dans tout ce qu'on fait. Dès qu'on fera ça,
oui,
et le développement du pays commencera.
Bien, donc maintenant, quelle est la solution vous avez dit qu'il y a des solutions à court, moyen et long terme.
Oui.
Les pluies vont revenir d'ici là. Alors, à court terme...
À court terme, c'est le dégagement massif de tout ce qu'il y a dans le collecteur.
Ce qui se fait déjà à travers la ville.
Ce qui se fait déjà, c'est déjà une bonne chose.
Et Kinshasa est aujourd'hui transformé en chantier. On voit, il y a des travaux un peu partout.
Un peu partout, oui, c'est bon. Alors là, vous avez posé une bonne question. Est-ce que cela va résoudre le problème d'inondation? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas le dire aujourd'hui. Parce que à quel moment on peut arriver à le dire avec exactitude? La première chose à faire, c'est que qu'on cure d'abord tous les caniveaux. Je ne sais pas si notre office de voirie et drainage maîtrise son réseau de drainage. C'est à lui de nous dire que bon voilà, j'ai un réseau de drainage de tant de kilomètres. Ce réseau de drainage a une capacité d'évacuer telle quantité d'eau. Alors là, on a un élément important, on a le réseau qui existe, et ce réseau-là, on connaît sa capacité maximale. Maintenant, à quel moment on va savoir que si la pluie qui arrive sera absorbée ou pas? À ce moment-là, il faut passer par les études.
Faut-il construire d'autres collecteurs, par exemple? Parce qu'on voit, lors des dernières pluies sur Willery, par exemple, et sur le boulevard, c'était inondé.
Mais vous risquez de construire des collecteurs pour rien. D'abord, identifiez le problème. Quand vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, le médecin ne commence pas le traitement tout de suite. Il vous envoie au laboratoire pour faire les examens. C'est la même chose en ingénierie. Lorsqu'il y a un problème des inondations qui se pose, allez faire l'examen d'abord de savoir pourquoi ça inonde. Est-ce que si on dégage tous les caniveaux, l'inondation va continuer? Est-ce que si on casse les maisons, vous venez de dire ici qu'on casse les maisons sur le collecteur, si on casse les maisons là, il y a des collecteurs qui seront dégagés, est-ce que les inondations seront absorbées? Et ça passe par la modélisation hydrologique. Et les gens, les experts de modélisation, vous les trouvez à l'INBTP. Ils peuvent vous faire ça, ils disent, bon voilà, à ce stade-là, voici le réseau qui existe, voici sa capacité maximale. Maintenant, les pluies qui amènent les inondations. Parce que là, dans votre première approche, vous avez parlé de pluies, de la saison pluvieuse qui arrive.
Oui.
Mais cette saison pluvieuse qui nous amène une pluie, toutes les pluies ne s'équivalent pas. Chaque pluie a son identité propre à elle.
Oui.
Il y a des pluies qui peuvent inonder, effectivement. Oui. Il y a des pluies qui ne peuvent pas inonder. Mais aujourd'hui, quand vous dites, bon, l'approche des prochaines pluies, donc on sait que non, quelle que soit la pluie, on sera inondé. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays. Ça, ce n'est pas normal, je dis. On est entre... Là, je vais ouvrir une parenthèse.
Est-ce que après les dernières pluies diluviennes, est-ce que les ingénieurs ne s'étaient pas réunis pour évaluer la situation et proposer des solutions? Je pense qu'il y a eu des rencontres de ces gens-là.
Il y a des types de rencontres que j'appelle, je ne sais même pas comment qualifier ces types de rencontres-là, pour amuser la galerie. Parce que tu sais, les intellectuels dans notre pays, quand il y a un ils se réunissent là, après une catastrophe, ils se réunissent rapidement.
Sous le coup de l'émotion,
et ils proposent des solutions. Mais vous proposez des solutions après quelle étude que vous avez faite? Après quelle étude vous proposez ces solutions-là? Ces études-là ont été validées par qui? Experts de ce domaine-là. Mais c'est n'importe quoi.
D'accord. Monsieur Saloum, je reviens à vous. Le temps d'accueillir les auditeurs qui sont déjà en ligne. Vous voulez participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 82 82 827. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Okapi. Bien, quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir les inondations, les catastrophes à l'approche de la saison pluvieuse? Et Minan Mwanda de Bukavu, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour à l'invité, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne.
Quelle est votre question?
Bon, face aux inondations récurrentes à Kinshasa, les autorités congolaises, je pense qu'elles ont mis en place des mesures pour prévenir des catastrophes naturelles. Maintenant, pour prévenir ça, parce qu'on dit souvent que M. Jody dirigeait se prévoit. Il faut qu'il y ait une interdiction formelle de construction dans des zones à risque. Comme par exemple ici chez nous à Bukavu, M. Jody, je vous dis, à chaque fois, on crie ça qu'il faut pas construire dans des sites impropres à la construction. Mais ce qui est aberrant, les autorités elles-mêmes qui interdisent ces constructions-là, c'est elles-mêmes qui donnent des titres de location. Et donc là, c'est une façon de dire une chose et son contraire à la fois. Alors, pour ne pas aller très loin de ce que je dis, je voulais que l'invité nous aide à éclairer l'opinion quant aux modalités pratiques pour mettre en place les mesures que les autorités congolaises ont déjà arrêtées afin de stopper l'inondation, en fait, le risque que les inondations peuvent avoir. Parce que normalement, monsieur Jody, on ne peut jamais blâmer la nature. La nature ne peut pas être blâmée. C'est pourquoi je profite de cette occasion de poser la question à l'invité de mesures idoines que les autorités ont déjà mises en place. Parce que arrêter les mesures, c'est une chose, mais les mettre en pratique est en une autre. Maintenant, comment les autorités la congolaise ont planifié la mise en application de ces inondations, la mise en application de ces mesures-là pour que la ville de Kinshasa ne puisse plus être un théâtre de catastrophes naturelles.
Merci.
La deuxième question, pour ne pas prendre de temps, la deuxième question, monsieur Jody, quand est-ce que les sinistrés des inondations seront réellement rétablis dans leurs droits? Est-ce qu'ils seront contrés de regagner encore dans le lieu où ils ont connu l'inondation, ou soit ils seront contraints d'être délocalisés? Et si oui, quels sont les sites déjà réservés pour accueillir ces familles-là qui, jusqu'à présent, je pense, n'ont pas d'abri?
Merci beaucoup, éminent de Bukavu, Justin Koulou de Fongroumé. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à notre invité. La question est de savoir, est-ce que quand on vote les budgets chaque année, il y a aussi la prévention, ou soit on vote seulement le budget pour les frais d'émission et les salaires, il n'y a pas de prévoir les activités du ministère? Ça, c'est point d'interrogation. Deuxièmement, le vin est tiré déjà à Kinshasa. Si vous prenez Mongafula, Ngaliema, apparemment c'est le village qui a existé avant et les gens sont allés les suivre de l'autre côté. Et si l'État cherche à faire l'urbanisation, est-ce que serait-il possible de déloger tous ces gens qui seront tombés sur le riz tracé? Si vous voyez bien Mongafula, Mongaliema, il y a quelque part, il n'y a même pas des avenirs. Et ce ne sont pas des montagnes, ce sont des bacs à sable. Parce que dans les Luboudi, dans les Fungurume, vous ne pouvez pas trouver les sables au milieu d'une montagne. Vous amenez pour même construire avec ça. Ce sont des pierres concentrées avec les matières là qu'il n'y a pas de glissement de terre. Mais Kinshasa est déjà exposé par les bacs à sable et les gens vont construire sur les bacs à sable. Après la pluie, il y a une érosion qui va emporter les maisons et les pertes en vie humaine. Et on continue toujours à assister les catastrophes. mieux vaut de construire les caniveaux. Les gens qui seront concernés par les caniveaux et leurs maisons vont partir. C'est cet argent-là qui va les aider à les déloger et les sauver et placer sur un endroit là où ils vivront longtemps. C'est ça le travail d'un gouvernement, pas seulement les salaires. Quand on est un homme, on porte les gants, la famille dans, de l'autre côté, on se frotte les mains que nous allons manger. Mais c'est bien. Ça leur travail.
D'accord, merci.
Ça, le vin est déjà tiré.
D'accord, merci beaucoup à Justin Koulou de Fungurume. Thomas, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, messieurs. Je dis un bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio. Moi, je pense que la solution, monsieur Tati, je dis, il faut qu'il y ait l'aménagement, en tout cas, du territoire et de la planification urbaine, mais également si on est à ville ou l'urbanisation. Parce que c'est inadmissible qu'il y ait des constructions, en tout cas, dans des zones à haut risque, monsieur Tati, monsieur, je ne dis pas. Allez voir l'état là où on construit des maisons, monsieur Tati. Il y a des zones à risque, mais on est en train de construire. C'est ça, ça se fait. On vit aussi des autorités. Ce sont les autorités qui délivrent les permis de construire, tout ça, ça se fait anarchiquement, alors que nous avons une loi également. Je pense qu'il faut également qu'on puisse respecter la loi, parce que récemment, ici, on venait à peine de promulguer la loi numéro 2025, ici, portant sur l'aménagement du territoire. Et s'il y a le problème des inondations, c'est aussi parce que il n'y a pas une politique dans le sens de l'aménagement également du territoire, parce que lorsque il y a l'urbanisation pour l'aménagement du territoire au niveau des villages. Tout ça, on ne peut pas assister à ça. C'est aussi, on doit respecter la loi. La loi venait à peine d'être promulguée. Mais je m'en vais directement aux questions, parce que la question des inondations, on ne peut pas les... Ça peut arriver à tout moment. Ce sont des faits naturels. Récemment même à Barcelone, il y a eu inondation dans les villages. C'est que ça, le problème des inondations, ça arrive à tout moment. Et c'est un phénomène naturel. Mais il faut les prévenir. Je m'en vais directement aux questions que j'aimerais poser à l'invité. La première question, c'est quels sont en tout cas les principaux facteurs qui contribuent aux inondations lors de la saison des pluies. Ça, c'est un exemple. De façon concrète, j'ai suivi l'invité, mais de façon concrète, quels sont en tout cas les principaux facteurs qui contribuent à ça. La deuxième question, quel est le rôle? Parce qu'on parle également de l'écosystème. Je ne sais pas, monsieur l'invité, quel rôle joue en tout cas la restauration des écosystèmes, dans la prévention également des inondations. Je ne sais pas ce que vous allez nous dire par rapport à ça. Et la troisième question, je vais citer par ici, M. Tati, comment l'éviter et vous évaluer en tout cas l'efficacité des infrastructures dans la prévention des inondations. C'est fait ça. Comment vous évaluer ça? Est-ce que à la qualité de nos infrastructures, ça répond vraiment au problème des inondations liées à la prévention? C'est fait ça, mais...
Bien, merci Thomas Ougeni depuis la ville de Kisangani. Nous parlons aujourd'hui des dispositions à prendre pour prévenir les inondations, les catastrophes à l'approche de la saison pluvieuse. Monsieur Salomou Salomon, Zahira, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Merci Jody. Je commence par Mwanda de Bukavu. Monsieur Mwanda demande les modalités pratiques des mesures des autorités, comment ils ont planifié.
Oui.
Alors, les modalités pratiques des autorités, comment ils ont planifié, je ne suis pas à mesure de vous le dire, monsieur Mwanda. Je ne suis pas là pour représenter les autorités. Je ne sais pas quelles mesures ils ont prises. Ils ne l'ont pas rendu public. S'ils l'ont rendu public, en tout cas, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme mesures. En tout cas, je ne sais pas. Comment ils ont planifié?
Les modalités pratiques, ça. Mais on voit quand même les actions sur terrain dans
la
ville.
Oui, je vois les actions par-ci, par-là. On est en train de...
Les drains sont curés. Ouais.
Je vois les aussi, routes. Là, je dois souligner, comme j'emprunte souvent l'avenue du tourisme. L'avenue du tourisme, voilà.
Oui.
J'ai vu des travaux de grande envergure. J'ai vraiment apprécié.
Le bétonnage.
Les versants, là, la façon dont ils sont en train de stabiliser le versant du côté du président de la République.
éviter
les éboulements.
Les éboulements.
Ah non, c'est formidable, j'ai vu. Mmh. En tout cas, si les calculs des eaux qui seront drainées par les différents drains qu'ils construisent, si les calculs des bassins versants ont été correctement faits, en tout cas, c'est du dire.
C'est formidable.
Ouais, ouais, ouais,
et beaucoup de gens apprécient aussi le fait qu'au lieu de construire, d'asphalter, maintenant c'est du béton. On est en train de bétonner nos routes et on peut dire que ça va durer longtemps.
Bon, ça c'est un autre débat. Là, on risque de mélanger les voilà. choses. On risque de mélanger les choses. Là, d'accord. C'est vraiment un autre débat.
Un autre débat.
Alors, okay. Monsieur Mwanda, j'ai vu les actions à Kinshasa. Je n'ai pas vu les actions dans d'autres parties du pays parce que je ne m'y suis pas rendu. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État, les autorités ont planifié. Je ne suis pas au courant. Alors, est-ce que les sinistrés...
L'indemnisation...
Oui, seront indemnisés.
Les sinistrés, etc. Bon.
Alors, je disais au début de l'émission, M. Mwanda, que les problèmes qui se posent dans notre pays doivent être résolus par tout le monde. C'est pas seulement les autorités. Ne pointez pas toujours les autorités du doigt. Moi, je me rappelle...
Il y a même un président américain qui l'a dit, ne demande pas ce que l'État fera pour toi, mais qu'est-ce que toi tu feras pour ton pays?
Qu'est-ce que toi tu fais pour le pays? Ça, c'est la bonne question que tout le monde doit se poser. Alors, moi, je peux vous donner juste un petit cas que moi, j'ai connu personnellement, monsieur Mwanda. Oui. J'étais encore petit, là. À Bandal, là, tu sais, à Bandal, la rivière Makelele débordait tout le temps. Alors, à un moment donné, les gens étaient sinistrés. Et l'État congolais a décidé de délocaliser ces gens-là. On a donné l'argent
à ces gens-là. Tous ceux qui avaient construit...
Oui, tout ce qui était sinistré là.
Sinistré, oui.
On leur avait donné de l'argent. Non seulement l'argent, mais on les avait donné le parcelles en passage, je me rappelle bien.
Pour aller habiter là-bas.
On les a donné gratuitement les parcelles et l'argent pour s'installer.
Oui.
Mais, monsieur Mwanda, je te dis, quelques temps après, tout le monde est revenu dans la... Il a mis l'argent en poche et ils sont revenus à Bandal Makelele pour être sinistrés prochainement. Bon, là, qu'est-ce...
Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des terrains qui leur ont été attribués?
En tout cas, bien sûr.
Ils ont vendu.
Eux-mêmes le savent. Moi, je ne sais pas dire, je n'ai pas de preuves.
Oui. Ils sont revenus pour être de nouveau sinistrés.
De nouveau sinistrés, moi. Alors, ces gens-là seront éternellement sinistrés et on demandera éternellement à l'État de localiser ces gens, de leur donner le moyen. Je ne suis pas l'avocat de l'État. L'État a sa part de responsabilité parce que quand l'État le laisse de revenir là aussi, ça c'est la responsabilité
mais
de l'État.
C'est le cas aussi, Mina nous l'a dit à Bukavu. Oui. Les gens construisent sur les versants.
Voilà.
Il y a des éboulements, il y a des décès et après vous verrez, il y a d'autres qui vont revenir
encore.
Ils vont
revenir
au même endroit.
Mmh. Et il y aura encore d'autres décès et le cercle vicieux
va continuer.
Alors, monsieur Justin Koulou. Monsieur Justin Koulou
veut savoir si dans le budget on prévoit une ligne pour la prévention des catastrophes.
Je ne travaille pas au ministère du budget, je ne suis pas député non plus qui est l'autorité budgétaire. En principe, un budget, on doit prévoir les imprévus. Absolument, ça doit. Je suis sûr que dans notre budget, cela est prévu, mais je ne sais pas vous dire à quelle hauteur. Ça, je n'ai pas d'éléments.
Et je pense que la gestion des catastrophes, ça revient au ministère de l'Intérieur. Sûrement, il y a des lignes budgétaires.
Bon, le ministère des Affaires sociales.
Sociales.
Oui, le ministère des Affaires sociales qui gère les catastrophes. Il doit avoir un budget pour ça. C'est sûr qu'il y en a, M. Nkoulou. Je suis certain qu'il y en a, mais à quelle hauteur, je ne sais pas.
Bien, Thomas, depuis Kisangani, il parle de l'aménagement du territoire. Tout ça, c'est lié à l'aménagement du territoire.
Oui.
Et il veut savoir quels sont les facteurs qui favorisent les inondations, l'efficacité des infrastructures que l'on construit, etc.
Oui, alors, Thomas, je vais résumer vos trois questions, pratiquement se recoupent. Alors, les facteurs qui contribuent aux inondations, je crois que je l'ai relevé dans la première partie de ma réponse à Jody. Alors, il y a plusieurs facteurs. Si je les liste tous ici, je ne serai même pas arrivé à la fin de la liste. Donc, quand le collecteur n'arrive... Donc, le grand problème... Parce que c'est quoi d'abord les inondations? Là, je vais définir les inondations, monsieur Thomas. Les inondations, c'est... Chaque fois que l'eau s'invite, là on l'attend pas, on dit que non, cet endroit-là est inondé. Voilà la question la plus simple, la façon la plus simple de définir les inondations. Donc, je peux même aller plus loin, quand une petite fourmi passe là, une goutte d'eau tombe sur la petite fourmi, mais la petite fourmi est inondée. Elle est inondée par une simple goutte d'eau. C'est-à-dire que lorsque la capacité, dans une ville, lorsque la capacité d'évacuation des eaux est dépassée par une quantité d'eau qui arrive, il doit y avoir des inondations. Alors, comment cette capacité-là peut être dépassée? Soit le collecteur n'était pas bien dimensionné,
oui.
Ce qui est rare. Généralement, les ingénieurs dimensionnent bien leurs ouvrages. Mais c'est l'usage, donc l'utilisation de ces ouvrages qui pose problème. À un moment donné, quand j'ai circulé dans la ville de Kinshasa ici, mais tous les collecteurs étaient pleins de sable, plein de sable.
Alors, tous les collecteurs,
en tout cas partout où je suis passé, c'était plein de sable. Alors, comment voulez-vous que ces collecteurs-là, qui est déjà plein de sable, puissent évacuer les eaux de pluie? Donc, ça, c'est un grand facteur d'inondation.
Et qu'en est-il des bassins de rétention? Est-ce qu'on en a plusieurs à travers la ville de Kinshasa, par exemple?
À travers la ville de Kinshasa, je n'en connais pas beaucoup. Les bassins de rétention sont les ouvrages qu'on met en place pour collecter la grande quantité d'eau et le lâcher petit à petit pour que ça n'inonde pas en aval.
Oui.
Alors, je n'en vois pas beaucoup à travers la ville, mais c'est une des solutions pour gérer les inondations. Alors, les écosystèmes, monsieur Thomas, bien sûr que les écosystèmes gèrent les inondations. Les écosystèmes, je donne juste un seul exemple, le wetland, comment on appelle ça en français? Le marécage, voilà. Le marécage, monsieur Thomas. Mais le marécage, c'est vraiment les écosystèmes qui luttent contre les inondations. Pourquoi? Parce que le marécage a un comportement d'une éponge. Lorsque les eaux arrivent,
ça absorbe
les eaux, et à un moment donné, les eaux feront longtemps pour inonder tous ces marécages.
Mais voilà que les gens ont construit sur les terrains marécageux ici à Kinshasa.
Les gens sont. Il y a même des cités où on pompe tout le marécage pour avoir la terre ferme en fin de construire. Mais oui. Ces cités-là qui sont
construites. La cité du fleuve, par exemple.
Par exemple. Mais ça, c'est une cité qui est vouée à la disparition. Ça, rien à faire. Elle disparaîtra un jour. Ça, rien à faire. Alors, voilà un peu l'efficacité des infrastructures, monsieur Thomas, c'est l'entretien. Il faut entretenir les ouvrages, Thomas. Ne jetez pas...
Mais le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, on est en train d'écurer les caniveaux, et le lendemain la population
rejette les histoires.
Jette les caniveaux.
Avec ça, Thomas, comment voulez-vous que les infrastructures soient efficaces? Donc c'est un peu ça brièvement la réponse.
Comme vous l'avez dit, c'est aussi un problème de comportement.
Comportement.
Il faut changer la mentalité.
Absolument.
On va accueillir Franck depuis Lubumbashi et Blaise Saïdi de Kisangani. Quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir les inondations, les catastrophes à l'approche de la saison pluvieuse? Appelez-nous pour participer au 081 82 82 827. Au Capi. Bien, Franck, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Bien, Franck n'est plus là. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, Boyoma, Singamwambi. Bonjour.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Blaise Saïdi.
Cher Jody.
Oui.
Oui, merci bien. La situation de prévention des inondations dans notre pays... Quelquefois, il y a aussi l'absence de l'État. C'est-à-dire les gens qui représentent l'État au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau provincial, il y a quand même un moyen dont ils laissent les choses évoluer dans cette manière. Il y a des endroits où on ne doit pas construire, mais on a envie de construire. Il n'y a pas la police d'assainissement. C'est pratiquement impossible. Chez Jody, je dois aller vite. Hein. La prévention des inondations à l'approche de la saison pluvieuse repose sur un ensemble de mesures combinant infrastructures, réglementation, système d'alerte, logistique et protection de l'environnement. Si ces dispositions sont bien coordonnées et appliquées, elles permettent de réduire les pertes humaines et matérielles. Néanmoins, leur efficacité dépend de la bonne gouvernance, de la sensibilisation des populations et de la mobilisation des ressources financières. Une approche proactive est donc indispensable pour anticiper plutôt que de subir les catastrophes. quelques questions à l'invité. La première question, cher Jody, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre d'un plan de prévention des inondations dans une ville comme Kisangani, ma ville, et Kinshasa? Je parle d'abord deux villes là.
Est-ce qu'à Kisangani, il y a déjà eu des inondations dans la ville ou en dehors de Kisangani?
Il y a des inondations sérieuses, cher Jody, puisque la ville de Kisangani. C'est le fleuve Congo traverse la ville de Kisangani.
Bien sûr.
Kinshasa, jusqu'à ce que les eaux ça se jettent au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. Mm-hmm. Donc nous sommes tellement dans la situation grave des inondations. Voilà, ok. La deuxième question, les systèmes d'alerte précoce actuels sont-ils suffisamment efficaces pour prévenir les pertes humaines et pour chuter? Quel rôle la déforestation joue-t-elle dans l'aggravation des inondations et comment y remédier? Je me limite à ces trois questions, cher Jody. Merci.
Ok, merci bien. Monsieur Salomon, vous avez la parole.
Merci, Blaise Saïdi de Kisangani. Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des dispositions de lutte de prévention contre les inondations? Le principal, il n'y en a pas beaucoup, Blaise, ne t'en fais pas. Il n'y a qu'un seul obstacle.
Lequel?
L'homme congolais. C'est l'homme congolais l'obstacle. Toi-même, Blaise, tu es parmi les gens qui sont cet obstacle-là. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi le deuxième volet de ma réponse. Le jour que l'homme congolais va décider de travailler pour son pays, le jour que l'homme congolais va décider de cesser d'être complaisant, le jour que l'homme congolais décidera d'être rigoureux, le jour que l'homme congolais décidera d'être sérieux, tout cela suivra. Voilà ma réponse à cette question, monsieur Blaise.
Voilà, il a parlé aussi du système d'alerte précoce. Alors, comment fonctionne le système d'alerte?
Alors, le système d'alerte précoce, ici chez nous, je ne sais pas où il existe. Je ne sais pas, toi, tu connais un système ici chez nous au pays, Blaise? Il est où, ce système? Moi, je ne suis pas informé. Où est-ce qu'il est?
Ben, il n'est plus en ligne.
Ah, il n'est plus en ligne.
Oui, il n'est plus en ligne.
En tout cas, je n'ai pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un système efficace, système d'alerte efficace?
Il faut le mettre en place. Il faut d'abord qu'il soit en place, ce système-là. Oui. Il faut le mettre en place parce que quand on dit un système d'alerte précoce, mais c'est un travail fou de modélisation, ça. Hydraulique et hydrologique. Mais qui a mis ça en place? J'aimerais voir ça.
Mais je pense qu'il y a quand même, la météo nous prévient quand il y a... Quand il y aura des pluies diluviennes, par exemple, il y a des bulletins météorologiques pour prévenir, faites attention.
Oui.
On va recevoir des pluies abondantes.
C'est pas ça le système d'alerte.
Ce n'est pas ça.
Ça sont des prévisions météo.
Voilà, mais c'est
quoi le système d'alerte?
Oui.
J'en ai parlé dans ma réponse, dans la réponse... Mon approche structurelle. Le système d'alerte, c'est quoi? Donc, vous avez les structures qui veulent mettre... Si aujourd'hui, le gouverneur de la ville ou je ne sais pas moi qui décide de faire développer un système d'alerte sur la ville de Kinshasa, partout où il y a des problèmes d'inondation, il va s'adresser aux experts du domaine. Il dit, bon voilà, je voudrais que vous puissiez mettre un système d'alerte en place. Il dit, d'accord. Alors, les experts vont faire un travail fou de modélisation. Ils vont faire un travail fou de modélisation de toutes les parties concernées. Et maintenant, le prévision météo...
Donc, ils vont répertorier toutes les zones inondables.
Oui, ils vont faire.
Je pense qu'ils l'ont déjà fait, d'ailleurs.
Oui, il y en a qui
cartographier cela.
Oui, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui continue à le faire.
Un instant, on va accueillir Bernard Aigle depuis Kikwit, et puis je reviens à vous. Bernard Aigle, bonjour. Allô? Voilà, Bernard n'est plus là en ligne. Allez-y.
Voilà, Bernard est parti. Nous sommes encore là. Oui. Alors, je disais que une fois que le système d'alerte est mis en place, il y a un modèle qui est là, qui met en place, et puis chaque fois qu'il y aura les prévisions météo, les utilisateurs du modèle, si par exemple, je donne un exemple comme ça, l'hôtel de ville demande à l'INBTP de lui développer un système d'alerte. D'accord. l'INBTP va développer un modèle, un système d'alerte qui met à la disposition du gouverneur de la ville. Mmh. Alors, chaque fois que la météo annoncera que non, bon, voilà, il y aura une pluie telle, qui aura telle intensité, qui va tomber tel jour, on prend les données de cette pluie-là. Les utilisateurs du système d'alerte oui. prennent cette pluie-là, ils mettent dans leur modèle, ils tournent le modèle, et le modèle leur donne comment la ville sera inondée, jusqu'à quel point. Ils donnent toutes les informations sur les inondations qui vont découler de la pluie que la météo...
Et on met déjà en place un plan d'évacuation.
Exactement.
De la population.
Le cas échéant. Mm. Le cas échéant, on met un plan d'évacuation, on prend toutes les dispositions possibles et on évite les pertes dommageables. Mm. Voilà. Voilà, c'est ça le système d'alerte.
Par exemple, dernièrement, on a été pris des coups par la catastrophe et beaucoup de gens étaient, des quartiers étaient inondés.
Voilà.
Si... Et puis on a déplacé la population.
Exactement.
On les a amenés vers le stade Tatarafaya.
Exactement. S'il y avait un système d'alerte en place,
oui.
ces gens-là ne seraient pas sinistrés de cette façon-là. Ils auraient pu avoir le temps d'évacuer tous leurs biens parce qu'on leur dirait que...
On va voilà, insister.
Oui, la pluie... Non, on leur dit carrément que la pluie qui va tomber, voici, ça va arriver dans votre maison jusque-là.
Jusqu'à telle hauteur.
Jusqu'à telle hauteur.
Donc, bon. Il faut déjà évacuer.
Exactement.
Bien, nous parlons aujourd'hui de dispositions à prendre pour prévenir les inondations. À l'approche de la saison des pluies, nous recevons M. Saloumou Salomon Zahira, expert en génie hydrologique. Maintenant, qu'en est-il des eaux qui tombent sur nos toitures à la maison? C'est aussi une grande quantité d'eau que l'on reçoit dans les ménages. Alors, comment canaliser, gérer ces eaux-là au niveau de chaque ménage pour éviter les érosions, les inondations et autres?
Il y a plusieurs façons de faire. Nous avons un office, heureusement pour nous, nous avons un office de voirie et drainage qui met un plan en place pour gérer ce type-là, pour gérer ces eaux qui viennent des toitures. Soit, il peut y avoir une disposition légale à travers la ville qui dit, bon voilà, désormais, à partir de l'année prochaine, aucune goutte d'eau des toitures ne peut être jetée dans la nature. Tout le monde doit gérer ses eaux, chez lui et il les évacue à travers le réseau principal. Mm. Ça aussi, c'est une façon de faire. Donc, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il y en a plusieurs, mais c'est question de prendre une décision.
Mais comment les gérer à partir de chez soi, à la maison? Comment
On collecte toutes les eaux qui tombent sur la toiture. On les collecte, on les envoie dans un puits perdu. Qu'on met dans la parcelle.
Dans la parcelle.
Ouais.
Et ça peut bien marcher.
Très, très bien.
Au lieu que ces eaux se retrouvent...
Il y a des villes comme ça, à travers le monde où les eaux, chacun garde. On peut même utiliser cette eau-là pour le besoin de ménage. Donc on peut dire, bon voilà, on garde toutes les eaux de toiture dans la parcelle, il y a des réservoirs pour ça, on le garde là-bas et puis on l'utilise pour le besoin de la maison. Par exemple.
Voilà, mais si la quantité est trop grande, peut-être que...
Oui, évidemment, le trompe-l'œil va aller dans les réseaux de drainage urbain.
Urbain, voilà. Donc, nous parlons de la gestion des dispositions à prendre. On peut dire que, par exemple, dans la ville de Kinshasa, l'OVD a pris quand même des dispositions parce qu'on a vu les maisons, on casse les maisons pour libérer les maisons qui étaient les constructions anarchiques sur les collecteurs. On voit les drains sont curés, etc. Il y a des travaux, les chantiers à travers la route, à travers la ville. Donc on peut dire qu'il y a quand même des dispositions qui sont prises.
Ah, ça c'est une bonne question ça. Surtout quand on parle de construction anarchique, que moi je mets toujours entre guillemets.
Pourquoi?
Anarchique.
Pourquoi?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle la construction anarchique. Pour le cas d'espèce, je ne sais pas. Alors, on casse les maisons, bon, je suppose que l'OVD qui casse, est-ce que c'est l'OVD qui casse ou qui a demandé de casser, ça je ne sais pas. Alors, les maisons qu'on casse là, évidemment on va libérer les collecteurs, et puis on va indemniser les gens pour qui on a cassé les maisons, je suppose. Parce que ces gens-là n'ont pas construit
Je ne sais pas s'ils vont être indemnisés. Si vous avez mal construit un terrain inapproprié, est-ce qu'on va vous indemniser?
Si j'ai mal construit avec les mauvais documents livrés par l'État, où est ma faute?
Ah, ça c'est un problème.
Ouais.
Donc ces gens doivent être indemnisés.
Absolument. Absolument. Et les gens qui ont délivré les mauvais documents là, arrêtez.
Même s'ils sont pris aux affaires.
Même s'ils ne sont plus aux affaires, il faut les chercher partout où ils sont. Même s'ils sont morts, les arrêter par...
Vous allez les arrêter comment?
Comment on dit? Je ne suis pas fort en droit. Il y a un terme là que les juristes utilisent pour arrêter les gens qui sont morts.
On va les arrêter comment?
Non, c'est pas normal que les gens s'amusent à faire n'importe quoi et puis on regarde... Mais non, c'est non, ça.
Voilà, un internet nous a écrit: bonjour monsieur, je vous capte bien depuis Kinshasa. Alors je profite de cette occasion pour poser cette question, pour participer à cette émission. Notre invité nous a dit que nous les Congolais, nous devons nous prendre en charge, nous-mêmes bien sûr, mais quand même, avec quel soutien? Car l'État congolais, il est présent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Le soutien de toi-même, tu es déjà un soutien. Voilà ce que je viens de dire. Que le Congolais pense que c'est l'autre qui doit faire. Mais ce soutien-là, il le cherche où? C'est lui le soutien. Tu cherches où ce soutien?
Il pense que la solution ne viendra que de l'État.
Voilà. C'est pas normal. Là, l'État va s'amuser avec cet esprit-là. L'État va s'amuser à faire ce qu'il veut parce qu'il sait que je n'ai pas de répondant en face. Mais si le type, le compatriote qui vient de poser la question là, savait qu'il a le pouvoir, que ce soutien qu'il cherche là, c'est d'abord lui-même.
Dans son quartier, là où il
habite.
Là
où il est.
Voilà.
Là où il est, d'abord lui, il ne doit pas chercher le soutien ailleurs. Le soutien doit, il doit nous dire que bon voilà, face à tel problème, il faut le soutien, voici ma part. Et je cherche un complément.
Alors là, voici dans notre quartier comment on s'est organisé sur l'avenue gérer les inondations.
Par exemple. Par exemple. Parce que si aujourd'hui, le bourgmestre, bon, moi je vis dans une commune, je ne cite pas les noms sur les antennes de Radio Capi, j'habite dans une commune et je travaille dans la même commune, mais je n'ai jamais vu une seule action du bourgmestre. Tout ce que je vois, ce que le bourgmestre fait, c'est célébrer le mariage chaque vendredi. Mais est-ce que le collecteur, le bourgmestre fait dire... Et puis quand, si tu lui poses la question, il va te dire qu'il n'a pas de moyens. Il attend le moyen du gouverneur de la ville. Le gouverneur va te dire qu'il attend le moyen du gouvernement central. Et ainsi de suite. Le gouvernement central va attendre le moyen des partenaires. Voilà.
Et rien ne sera fait.
Et rien ne sera fait. Rien ne sera fait.
Mais on reconnaît quand même, il y a l'office de voirie et de nage est en train de faire un travail formidable sur les terrains. Actuellement, les drains sont curés et puis il y a des travaux
pas,
à travers la ville.
Je ne sais pas dire que c'est un travail formidable. Je vois quelques actions par-ci, par-là. Parce que l'action formidable, c'est quoi? Moi, je veux... J'ai une formation d'ingénieur. Nous, chez nous, c'est la pratique. Nous sommes dans la logique de pratico-pratique. Je voudrais que l'office de voirie et de nage passe sur Radio Capi, face à la télévision, qui dit bon voilà, voilà le problème actuel de la ville de Kinshasa. Voici ce qui provoque les inondations. Voici mon action actuelle que je fais. Voilà, en cassant ça, 1, 2, 3, 4, voici ce que ça va donner comme résultat. Oui. Et nous, on le juge en fonction de ça.
Mais d'accord, c'est déjà une invitation que nous vous lancez.
Oui, invitez-le qui nous dise quand je casse ça, c'est pour quel résultat. Posez-lui la question.
D'accord, je pense qu'on va contacter les responsables de l'OVD.
Exact.
Pour une émission là-dessus. Alors, pour terminer, avant de terminer, quel message pouvez-vous donner aux Congolais, aux Kinois particulièrement qui vous écoutent?
Oui, l'unique message que je donne aux Congolais partout où je passe parler, c'est que les Congolais doivent apprendre à devenir sérieux. Et tout ira de soi.
Voilà, devenons sérieux et tout va marcher.
Exactement.
Voilà, espérons que les pluies qui vont revenir ne vont pas encore causer des dégâts énormes et des pertes en vie humaine.
Comme il y a plein d'églises à Kinshasa, on va prier pour que ça ne pose pas de crise.
Bien, monsieur Salomon Zaira, expert en génie hydrologique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, je dis merci beaucoup.